Vous écoutez On lit pour vous.
Bertrand Cantin, philosophe. Il faut toute une organisation sociétale pour éduquer le regard. Un texte de Marilyn Chaumont, paru le 21 mai 2026 dans Ombre et Lumière. Bertrand Cantin, philosophe et maître de conférences à l'université Gustave Eiffel, analyse les craintes individuelles face au handicap et revient sur l'évolution du regard de la société depuis l'Antiquité. Pourquoi la peur surgit, voire le malaise, face au handicap? La personne touchée par le handicap est un être qui à la fois nous ressemble et s'écarte de nous-mêmes, ce qui crée une inquiétude. Celle-ci est d'autant plus forte que l'on manque d'expérience. En CE2, alors que j'étais arrivée en cours d'année, le maître d'école m'avait placée à côté d'un élève nain. Cette première rencontre avec le handicap m'avait fait extrêmement peur. Ce voisin de classe était étrange, il avait une tête surdimensionnée et il s'appelait Amédée. Sa proximité a fait monter chez moi une grosse angoisse. Mais après quelques semaines, on jouait tous au ballon dans la cour avec lui. Seule l'expérience amène à ce que notre regard soit moins effrayé. La personne qui souffre de ces regards a-t-elle un rôle à jouer? Je vois un paradoxe à demander à la personne handicapée de réussir à construire une identité forte pour ne pas être déstabilisée par le moindre regard désagréable, alors même que cette identité n'est pas évidente à construire, à force d'être amoindrie en permanence. J'aime citer l'anthropologue Robert Murphy, reconnu pour ses ouvrages importants sur les Indiens du Brésil, devenu quadriplégique lorsqu'il a été touché par une bactérie à la colonne. Robert Murphy a décrit le changement du regard des autres sur lui. Son identité d'enseignant célèbre n'a pas suffi à lui donner assez de force. Il a constaté une progressive détérioration de son identité propre. Il perdait en confiance. L'identité n'est pas quelque chose d'acquis définitivement. Lorsqu'on parvient à ne pas l'éroder, il n'y a plus ces réactions d'agressivité ou de honte, car on mesure que c'est l'autre qui est faible. Si ce passant a peur, c'est justement par manque de force. Je sais que tu n'es pas assez fort pour ne pas être effrayé devant mon physique. Le vrai problème, c'est de ne pas voir assez le handicap dans notre quotidien. On peut en vouloir surtout à la société, qui peut installer un climat, s'organiser pour rendre l'inclusion possible. Les parents, souvent agressés par le regard d'autrui sur leur enfant, peuvent-ils y changer quelque chose? Les familles peuvent être choquées face à certains regards et se dire que les gens ne font pas d'efforts, mais aussi qu'ils n'ont pas eu d'occasion de rencontrer des personnes handicapées. C'est à la fois une faute et un fait social. Le vrai problème, c'est de ne pas voir assez le handicap dans notre quotidien. On peut en vouloir surtout à la société qui peut installer un climat, s'organiser pour rendre l'inclusion possible. À Paris, seul 14% du métro parisien est accessible. Si la ville insiste et investit, on sera amené à croiser beaucoup plus de personnes en fauteuil dans le métro et cela va habituer le regard. De même, si on continue d'enfermer des personnes dans des établissements, celles-ci circuleront trop peu dans la cité et le regard ne sera toujours pas habitué. Il faut toute une organisation sociétale pour éduquer le regard. Y a-t-il eu un miracle paralympique? Les Jeux paralympiques nous ont ouverts à des corps étranges, comme ce nageur brésilien qui pouvait susciter un choc au départ, mais qui, par son aisance, son rire, a aidé à dédramatiser les choses. Les Jeux ont eu le mérite d'élargir le regard, d'habituer les Français aux corps différents. Même s'ils n'ont pas tous regardé, la télévision publique a joué un rôle important. Ce sont des petites victoires qui se diffuseront sur un temps long. Si l'on pense à la France des années 1970, par rapport à celle d'aujourd'hui, l'écart est énorme. À l'époque, on n'aurait jamais vu la tête amputée Théocurin sous les projecteurs. Dans l'Antiquité, la folie suscitait un lien privilégié avec les dieux. Chez nos contemporains, c'est l'inverse. Les parents craignent davantage le handicap mental que physique. L'homme, qui ne peut pas penser comme les autres, semble d'emblée exclu du partage humain classique, qui se fait aussi par la communication. Pourquoi le handicap mental fait-il plus fuir que le handicap physique? Il faut savoir que dans l'Antiquité, on avait bien plus peur du handicap physique que du handicap mental. Il apparaissait si étrange d'avoir par exemple 6 doigts au lieu de 5 que cet être n'appartenait pas à notre espèce. Comme la personne avec un handicap physique faisait peur, il fallait l'abandonner dans la nature. On présentait le corps étrange aux dieux pour justifier l'abandon. En revanche, les Grecs pouvaient mieux envisager le handicap mental, qui pouvait se découvrir plus tard. celui qui n'avait pas l'esprit délié avait reçu un don divin. La folie suscitait un lien privilégié avec les dieux. Chez nos contemporains, c'est l'inverse. Les parents craignent davantage le handicap mental que physique, car la remédiation semble possible pour le second. Et puis, nous sommes devenus une espèce qui aime se définir comme un animal pensant. L'homme, qui ne peut pas penser comme les autres, semble d'emblée exclu du partage humain classique, qui se fait aussi par la communication. Le regard de la société sur la personne handicapée est-il en bonne voie? On critique beaucoup notre société occidentale, mais on s'est beaucoup plus occupé du polyhandicap au XXe siècle que dans tout le reste de l'histoire. De même, en 1950, un infirme moteur cérébral avait 5 ans de vie devant lui. Qu'est-ce qui a changé? La société s'est ouverte à pouvoir les accueillir, ces personnes, et à pouvoir appréhender leur corps. Avec la kinésithérapie, la verticalisation, rappelons qu'elles étaient alors grabatisées. Le handicap est bien mieux reçu de nos jours. Le changement de regard implique d'être passé d'une psychologie où les parents et le corps médical disaient « L'enfant ne va pas vivre, abandonnez-le, ce n'est pas la peine de s'en occuper », à des médecins qui savent aujourd'hui qu'il pourra se développer. Et j'insiste sur le fait que les jeunes générations peuvent inverser la donne. Beaucoup de quadragénaires n'ont jamais côtoyé de personnes handicapées, alors que nos enfants le font davantage sur les bancs de l'école. C'était Bertrand Cantin, philosophe. Il faut toute une organisation sociétale pour éduquer le regard. Un texte de Marilyn Chaumont, paru le 21 mai 2026 dans Ombre et Lumière.
Ne détourne pas les yeux, une chronique d'Elsa Pépin, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Elle avait 2 filles et rêvait d'être mère à nouveau. Elle aimait faire des enfants et se vantait de les faire bien. Cet orgueil aura peut-être été puni. Pendant des semaines, elle imagine ce 3e enfant que porte son amoureuse, S, et qui tient déjà du miracle, car, faut-il le rappeler, fabriquer un enfant pour 2 femmes est une aventure complexe. Grâce à la procréation médicale assistée, tout baigne dans le bonheur et l'amour de l'enfant à venir jusqu'à la seconde échographie qui révèle une anomalie, le fémur trop court. C'est par là que tout commence. Les os trop petits révèlent une grave maladie génétique, la tragédie que l'on redoute. Il faudra interrompre la grossesse ou alors mettre au monde un enfant lourdement handicapé. Pour la collection Caméra Obscura, qui propose aux auteurs et autrices de narrer un souvenir à partir d'une photo, Pauline Delabroye, à l'art, a choisi d'écrire un récit autour d'une photo immontrable qu'elle met en relation avec le nouveau-né, une huile sur toile de Georges de la Tour, où 2 femmes posent à côté d'un bébé. Le récit avance vers cette image, mais avant d'y arriver, l'autrice du magnifique « Ça raconte Sarah » rapporte l'échographie fatidique avec la lenteur de celle qui redoute en l'écrivant d'arriver au point de bascule, le retient par l'écriture. Elle détaille l'imagerie médicale qui amuse. On ne veut pas connaître le sexe du bébé. On demande aux mères de ne pas regarder. Et puis vient le silence du radiologue qui alarme tout de suite. Une fissure. Dans le cabinet, le réel éclate et c'est un choc. Après les mots acronymes qui blessent, elle découvre qu'il y a pire, les chiffres. Un seul chiffre qui ne collait pas et a tout déséquilibré. La taille d'un fémur. Elle décide de procéder à une interruption médicale de grossesse, IMG, mais le parcours est long. Pendant des semaines, les mères savent qu'elles ne garderont pas le bébé qui est toujours dans le ventre de S. Un petit être vivant qui n'ouvrira jamais les yeux. Dire la tragédie qu'elle a traversée avec son amoureuse devient œuvre de survie et magistrale mise en lumière du deuil périnatal, une réalité invisibilisée et méconnue, bien que courante. À la même période, Delabroye à l'art perd son père. Le malheur venait de s'abattre sur nous. écrit-elle avec un sens du tragique qui laisse aussi place à l'humour, à une légèreté qui pointe avec maestria chez cette écrivaine à la prose vivante, incisive et poétique. Sincère, sensible et bouleversant, le récit documente le parcours médical et émotif que traversent ces femmes et donne corps à l'enfant que tout pousse à effacer. C'est une aventure du langage à laquelle nous convie Delabreuil à l'heure, qui accorde aux mots le pouvoir de témoigner de l'inconcevable qui troue la réalité. Le langage permet d'approcher l'impossible. L'autrice file la métaphore photographique avec virtuosité pour éclairer le récit du deuil innommable. La grossesse devient un processus semblable à la photographie. La femme enceinte, porteuse d'une image silencieuse qui se développe, le ventre, la chambre noire. Citant Didier Huberman, Barthes et Sontag, elle confie la relation particulière qu'elle entretient avec la photographie après une enfance sans iconographie. Elle compense en prenant des photos tout le temps, contre l'effacement, contre l'oubli, pour prouver que c'est bien arrivé et les partage immédiatement sur les réseaux sociaux comme si l'image n'était réelle que dans la réception. « Je vis avec cette intensité-là, celle du désir d'empreinte, une envie folle de correspondre avec le monde, une peur de tout perdre. Les limites de sa compulsion ou fétichisation du réel paraissent évidentes à la lumière du drame. Je pensais que cela me donnerait un avantage sur la vie, un temps d'avance sur le réel, un pouvoir, mais le réel s'en fout que j'ai un temps d'avance. Le monde se fissure, le réel me traverse brutalement. Il me mord comme un chien enragé. Une photo ne retient pas la vie. Un mot ne repousse pas la mort. Pourtant, c'est tout ce que j'ai. » Muni de ces outils insuffisants, Delabreuil alors s'approche avec une somptueuse délicatesse vers cet accouchement à la fois terrible et beau, vers cette image fantôme, interdite, que le récit prépare, annonce, avant d'être raconté dans un passage mémorable où l'émotion culmine. Après une IMG, le bébé, mort in utero, par un geste actif d'euthanasie fétale, est lavé, habillé et mis dans les bras des parents qui peuvent passer quelques heures avec lui. La scène devient, sous la plume de l'autrice, un moment de grâce sacrée. Elle compare son amoureuse à une sainte, une madone, une martyre aux traits empreints d'un amour divin. La forme de ce passage devient psalmodie, oraison sublime, les mots répétés puis répétés encore, pour faire entrer dans le corps les images irréelles. Juste là, juste là, juste là, dans la serviette jaune, il y avait son corps. Il y avait son corps, et il était mort, et il était mort. Parce qu'elle se demande qui le croira. Elle écrit puis photographie la scène, qu'on refuse de voir et pourtant traversée par des milliers de femmes. Banal pendant des millénaires, la perte d'un enfant à la naissance est aujourd'hui considérée comme un échec de la science. La méconnaissance de la souffrance liée au deuil périnatal désarme les parents, raconte l'écrivaine. Ce livre brise l'interdit et rend hommage à toutes les mères du deuil qui mettent au monde un enfant sans lendemain. Qui nous a appris à ne pas regarder la mort en face? Qui nous a appris à détourner les yeux? D'où vient la honte? L'immontrable, écrit-elle, est ce qui est trop plein, trop chargé, trop humain, ce qui déborde du cadre. En choisissant de photographier ce moment impensable, naître mort, qui dérange l'ordre du monde, l'autrice contrevient à la loi tacite d'un silence qu'on nous a imposé. À l'époque victorienne, on photographiait les bébés morts. Ce rite dans les familles bourgeoises a disparu, comme d'autres qui aidaient à accueillir la mort sans la dissimuler sous une chape de malaise. Après une série de photos d'elle et de son amoureuse avec le bébé, Delabreuil à l'art ose l'autoportrait, l'image immontrable, autoportrait des amoureuses au petit cadavre, restera cachée dans son téléphone, mais fera d'elle une autre femme. Une densité nouvelle accompagne sa vie. Avancer dans le monde avec cette image transforme sa vision. La photo devient une maternité mémoire, se souvient de l'intensité dramatique de l'enfant mort-né, de la présence à l'envers, pas une fin, une révélation lente et douloureuse d'une image inversée. Entre poèmes sacrés et récits manifestes qui brisent la loi d'un interdit, l'immontrable nous invite à ne plus détourner les yeux de la mort. Nous, femmes survivantes, nous allons vous hanter avec nos bébés morts. Vous ne les oublierez jamais. C'était « Ne détourne pas les yeux », une chronique d'Elsa Pépin parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
Manger comme nos ancêtres? Vraiment? Un texte d'Annie Ferland, diététiste nutritionniste, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. C'est un drôle de paradoxe de notre époque. Plus la science de la nutrition évolue, plus on idéalise l'idée de manger comme à l'âge de pierre. Du régime paléo à la primal diet, des assiettes carnivores au mouvement du lait cru, plusieurs courants alimentaires gagnent en popularité en promettant un retour à la simplicité et au naturel, gage de santé. Mais quand on les regarde de plus près, les habitudes alimentaires des temps anciens n'ont rien d'un guide de nutrition. Cette idée de manger comme nos ancêtres ne sort pas de nulle part. Elle remonte aux années 1980, quand des scientifiques ont proposé une théorie qu'ils ont nommée le décalage évolutif, Evolutionary Mismatch. Selon eux, notre génome, notre système digestif et, plus largement, notre biologie, aurait été façonné par des millénaires de chasse et de cueillette. Puis, ils ont brusquement été exposés à des aliments modernes pour lesquels ils ne seraient pas adaptés. Nos ancêtres auraient été épargnés par les maladies chroniques et c'est la modernité, avec ses produits transformés, qui nous aurait rendus malades. 40 ans plus tard, l'idée n'a plus rien de marginal. Mais dans le milieu scientifique, ses propres auteurs l'ont largement nuancé et plusieurs travaux ont montré que la théorie de départ ne tenait pas la route. Mais dans la sphère populaire, l'hypothèse s'est fondue dans une mosaïque de courants alimentaires qui idéalisent un mode de vie authentique ou traditionnel. Aujourd'hui, l'idée va même encore plus loin. Elle alimente des mouvements sociaux et politiques en quête d'un retour à un passé supposément plus simple, des tradwives aux promoteurs du virilisme ancestral jusqu'à certains milieux pro-MAGA où le steak devient un symbole d'identité et le suif de bœuf un manifeste anti-woke. Mais derrière ces récits virils ou nostalgiques, les preuves d'une meilleure santé sont pour le moins fragiles. Les rares études cliniques sur la diète paléo, souvent de courte durée et menées sur de petits groupes, montrent surtout les bienfaits de réduire la consommation d'aliments ultra-transformés. Et, à long terme, ces régimes qui bannissent les céréales, les grains entiers, les légumineuses, les produits laitiers, certaines huiles végétales, le sel et même les aliments fermentés exposent à un risque accru de carence en fibres, en calcium et en plusieurs vitamines du groupe B. Quant à l'idée que les chasseurs-cueilleurs étaient en meilleure santé, elle se heurte à un simple fait. Ils vivaient beaucoup moins longtemps. Les maladies chroniques étaient rares, certes, mais parce qu'on ne vivait pas assez longtemps pour en faire l'expérience. L'espérance de vie dépassait rarement 40 ans, écourtée par les infections, les famines ou les blessures. Mourir jeune, c'est une manière radicale d'éviter un diabète de type 2. Nos ancêtres n'étaient ni des modèles de longévité, ni des exemples à suivre pour planifier un repas équilibré. Leur alimentation répondait à la survie. La nôtre, au contraire, peut conjuguer diversité, sécurité et plaisir, trois luxes qu'ils n'ont jamais connus. Comme quoi, la nostalgie du passé aura toujours la cote chez ceux qui n'ont jamais eu à chasser leur déjeuner. C'était « Manger comme nos ancêtres, vraiment ?» Un texte d'Annie Ferland, diététiste nutritionniste, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science.
Des opossums au Québec, un texte de Élisabeth Guillet-Beaulieu, paru le 1er juin 2026 dans le Centre des sciences de Montréal. Quel est cet animal un peu mignon moche qui se balade près de chez vous et que vous ne reconnaissez pas? Il a la fourrure grise, les oreilles et les pattes noires, les doigts roses et un visage pointu et blanc. Quoiqu'il leur ressemble un peu, ce n'est ni un rat, ni un raton laveur. Eh bien, ce n'est nul autre qu'un opossum de Virginie. On peut entendre la question quitter vos lèvres. Il y a des opossums au Québec? La confusion est compréhensible car rencontrer ces petits animaux dans la belle province n'était pas si commun il y a de cela à peine 20 ans. Pourtant, il faudra s'attendre à en rencontrer de plus en plus au cours des prochaines années principalement. Vous l'aurez deviné, en raison des changements climatiques. Décortiquons un peu la situation. Un marsupial nord-américain. Tout d'abord, l'opossum de Virginie, Didelphis virginiana, est l'unique espèce de marsupial retrouvée au nord du Mexique. Un marsupial est un mammifère dont les petits demeurent dans une poche située sur le ventre de la femelle après être venu au monde. Les marsupiaux, c'est le groupe auquel appartiennent les kangourous. Dans le cas des opossums, les petits restent bien au chaud dans la poche de leur mère entre 50 et 65 jours avant de commencer à en sortir. Après tout, quand ils viennent au monde, les bébés ne mesurent en moyenne que 14 mm. Il faudra attendre l'âge de 15 semaines avant qu'ils puissent survivre par eux-mêmes. Les opossums sont des animaux solitaires que l'on retrouve souvent à proximité des points d'eau, tels que des étangs ou des marais, et ils se nourrissent de manière opportuniste. Ils mangent de tout, un peu comme des ratons laveurs. Par contre, contrairement aux bandits des poubelles, ce sont de petits peureux. Lorsqu'ils deviennent trop stressés, ils feignent la mort. Où trouve-t-on des opossums en Amérique du Nord? Les opossums tolèrent mal le froid et vivent bien dans les milieux plus chauds. C'est pourquoi l'étendue des populations d'opossums allait auparavant du Mexique et de certaines régions de l'Amérique centrale jusqu'à la limite entre les États-Unis et le Canada. Cependant, les changements climatiques font en sorte que les températures moyennes enregistrées au Québec, comme ailleurs au Canada, sont en hausse. La même tendance peut être observée dans les régions les plus au sud où les opossums vivent. Si cela perdure, ces lieux risquent de devenir trop chauds pour que les opossums puissent continuer à y vivre. Cette situation rend donc notre province progressivement plus hospitalière pour les opossums qui migrent de plus en plus vers le nord. Dans quelle région du Québec avez-vous le plus de chances de les apercevoir? Pour l'instant, on les retrouve surtout sur la rive sud de Montréal et en Montérégie. Les premières observations de cette espèce sur notre territoire remontent à 1976, mais des populations locales sont bien établies et en expansion depuis 2000. On en a même aperçu à proximité de Trois-Rivières en 2017. Que faire si vous rencontrez un opossum? Lors d'une rencontre avec un opossum, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un animal sauvage. Donc, comme avec un écureuil, un renard ou un putois, il ne faut pas essayer de les toucher ni de l'attraper. L'idéal est de simplement le laisser tranquille. Et si vous laissez de la nourriture à l'extérieur pour un animal de compagnie, il est nécessaire de la rentrer à l'intérieur la nuit, histoire d'éviter qu'un opossum vienne se goinfrer sur votre balcon. L'opossum, barrière ou vecteur de maladie. Il existe quelques mythes au sujet de ces marsupiaux. L'un d'eux est la croyance que les opossums permettent de contrôler la répartition de la maladie de Lyme, une maladie neurodégénérative transmise par les tiques. Il est vrai que les opossums supportent mal la présence de parasites dans leur fourrure. Ce sont des animaux faisant régulièrement leur toilette, ce qui les amène à se débarrasser de la plupart des tiques s'attachant à leur peau. Mais ce comportement n'est pas infaillible et ne permet pas de contrôler les mouvements des tiques au point d'endiguer la maladie de Lyme de manière efficace. Tentez d'attirer un opossum à demeurer près de votre domicile dans l'espoir de garder les tiques à distance ne donnera pas le résultat escompté et est déconseillé. Vous avez entendu dire qu'une morsure de possum peut transmettre la rage? Bien qu'il ne soit pas impossible, les cas de rage sont rares chez cette espèce et encore plus rares au Québec. Si toutefois vous êtes la victime peu chanceuse d'une morsure de ce marsupial, il est important de la rapporter au service de santé. Malgré ces mises en garde, les opossums sont des animaux plutôt timides et inoffensifs, donc si vous en apercevez un dans les environs, n'ayez crainte. Admirez leurs binettes blanches de loin et ne touchez qu'avec vos yeux. C'était « Des opossums au Québec », un texte de Élisabeth Guillet-Beaulieu, paru le 1er juin 2026 dans Centre des sciences de Montréal.